au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le grand plaisir d'accueillir Madame Laurence Fontaine qui vient de faire paraître chez Gallimard l'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle. Laurence Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de notre invitation. Je sais que vous rentrez tout juste de voyage, de Vienne. C'est un terrain de prédilection, je pense, pour une historienne, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. C'était un colloque, d'ailleurs, sur l'économie, les Anglais disent « of makeshift ».
Ah, bon, d'accord.
L'économie de la débrouillardise.
Ah, bon, d'accord, et... d'accord. Donc là, ce n'était pas sur le plan historique, uniquement ?
Si, en histoire.
C'était
une réflexion.
Très bien. Enfin, en tout cas, vous voilà à Paris, et donc nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, vous êtes historienne. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes un auteur confirmé. Vous avez déjà fait paraître 3 ouvrages très spécialisés chez le même éditeur, si j'ai bien compris. Et en 2008, votre conférence sur la pauvreté et les stratégies de survie, parue aux éditions de la rue d'Ulm, reste dans toutes les mémoires. Vous êtes enfin directrice à l'école des hautes études des sciences sociales.
En fait, je suis rattachée à un laboratoire qui est joint à l'école des hautes études et à l'école normale supérieure et qui est le laboratoire Maurice Alvax.
Parfait. Alors, voilà que vous investissez à un nouveau territoire, celui de l'économie, et à travers donc cette parution, et que vous justifiez, je pense de façon merveilleuse, dès l'introduction, par une citation que je retrouve, et qui est donc la suivante, elle est de Georges Simmel, « Les problèmes de la philosophie de l'histoire ». On observe fréquemment cette tendance à traiter les événements économiques comme s'ils constituaient des séries causales autonomes. Dans la réalité, les faits économiques sont à l'évidence la résultante d'autres faits qui peuvent provenir de tous les secteurs imaginables. Je plaide pour qu'on reconnaisse l'interdépendance de toute série historique particulière avec toutes les autres, pour que l'on voit que chaque élément de telle série résulte de causes appartenant à toutes les autres. Je pense que ceci pose, c'est le chapeau, on va dire, de votre ouvrage et le motif, un des motifs, je suppose, de votre intrusion dans l'économie. Vous dites aussi par ailleurs, sur le quatrième de couverture, « L'air du temps chez les économistes, les sociologues, voire les historiens, est à la réflexion. Existe-t-il une alternative à cette forme nouvelle d'ensauvagement qui est devenu le libéralisme économique pour lequel tout peut désormais s'échanger, y compris la vie ?» comme les biens ordinaires. Alors c'est quoi cet ensauvagement ?
Eh bien l'ensauvagement, c'est effectivement la possibilité que le marché puisse concerner la vie humaine, qu'on puisse vendre ses organes, ses enfants, c'est tout ce qui est...
On redevient sauvage.
Voilà.
Alors, vous dites qu'il y a une alternative, ça vous le dites aussi de façon très, très synthétique. La réponse la plus courante, c'est le retour à l'économie du don et du développement du microcrédit, observé dans tous les pays du monde, aidant les êtres à se désengluer de la misère plutôt qu'à faire fructifier l'argent sur le marché de la spéculation financière. Le microcrédit est aujourd'hui paré des atours d'une économie morale parce que solidaire. Alors on va voir que le microcrédit est au centre de vos développements. Donc, qu'est-ce que vous dites de cette alternative au plan contemporain ? L'économie du don et l'économie...
Si je le replace dans l'histoire, bon, d'abord partons du contemporain. Dans le contemporain, beaucoup de gens espèrent refonder une société en se débarrassant du marché. Il y a une grande hostilité au marché. Et finalement, quand j'ai travaillé sur l'économie d'Ancien Régime, je me suis rendu compte que le marché était une ressource. Bien au contraire, et que les pauvres, entrer dans le marché faisait partie des stratégies de la pauvreté. Je me suis rendu compte aussi que le Mohamed Younous, quand il a développé le microcrédit, il s'était rendu compte en allant dans son université que des petites marchandes de quatre saisons, en fait, pouvaient acquérir les petites denrées qu'elles allaient vendre grâce à des usuriers qui leur prêtaient au jour le jour l'argent dont elles avaient besoin et qui leur prêtaient à des taux d'intérêt extrêmement forts. Et donc Mohamed Younous s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne leur prêterai pas cette même argent, mais à des taux beaucoup plus acceptables? Et c'est donc ce qu'il a fait. Mais d'une certaine manière, je me suis rendu compte que c'était la même chose spontanément dans l'économie d'Ancien Régime. Les femmes de la Halle, à Paris, étaient conviées par un usurier à côté du marché de la Halle, qui les mettait dans une même pièce, avec un crucifix sur le fond du mur, et qui leur prêtait l'argent, grâce auquel elles achèteraient des pois, des groseilles, des poissons, tout ce que vous voudrez. Et il leur faisait jurer d'être responsables solidairement de rembourser cet argent qu'il leur avait prêté, et donc de rembourser cet argent pour la moindre femme qui ne pourrait pas le faire, ce qui est exactement le principe du microcrédit solidaire. Donc à la fois, je trouve que c'est grâce au microcrédit, toutes ces femmes ont pu vivre. Même s'il était cher, elle leur a permis de gagner leur vie tous les jours. En revanche, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, quand bien même elles auraient pu accumuler plus de capital, au moins dans l'Ancien Régime et dans l'Inde aujourd'hui, les femmes n'ont pas assez de droits qui leur permettent de faire fructifier cet argent. Il faut un minimum de droits politiques, économiques, de reconnaissance sociale, qui font que le microcrédit est une bonne idée, mais c'est une
Voilà. Qui est confronté à la réalité, on va dire, de classe, de caste même.
Exactement. Encore faut-il qu'on donne aux gens les moyens de faire fructifier D'accord. l'argent qu'on leur prête.
D'accord. Alors, vous associez l'économie et la morale par le crédit. Et c'est déjà un défi en soi, parce que les philosophes, à commencer par les pascaliens, ont dû légèrement tousser en considérant qu'on fait ce parallèle. En tout cas, vous, au moins, vous le faites par le crédit. Et donc, vous entrez, à travers ce que nous connaissons de l'actualité financière, dans un domaine où on est en train de présenter des nouvelles formes de régulation. Et je pense que vous seriez tout à fait légitime à faire parvenir à notre grand ami René Ricol, le nouveau médiateur du crédit et de l'assurance crédit, votre ouvrage qui lui donnera certainement une perspective autre que celle des difficultés de l'heure, et reprendre cette trajectoire historique, je pense qu'il appréciera. Donc je vous le suggère. Mais en tout cas, vous êtes dans l'actualité et je suppose que lorsque vous l'avez écrit, vous ne pensiez pas qu'elle vous rattraperait aussi fortement. Donc, pourquoi, c'est la question que je voulais vous poser, pourquoi avoir développé le crédit? Quelle est donc sa fonction dans la société, en tout cas vue par l'historienne que vous êtes? Et en particulier, son rôle, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais enfin je pense que vous pouvez le développer plus, son rôle dans le lien social, puisque vous associez dans la relation de confiance les créanciers et les débiteurs, les prêteurs et les emprunteurs, sous forme de, justement, de ce lien fondamental. Vous prenez l'exemple tout à l'heure des travailleurs des Halles. Et ça, vous considérez en tant qu'historienne, ce lien a toujours été très fort.
Eh bien, c'est-à-dire que ce qui m'avait frappé dans le crédit, c'est que si vous regardez des inventaires après décès, par exemple de paysans, d'artisans, bref, toute la population, on se rend compte, dès qu'une crise économique est arrivée, que ces gens meurent avec beaucoup plus de dettes que d'actifs. Mais pour autant, ils ne meurent pas dans la rue, ils meurent chez eux. C'est-à-dire qu'on a pu étudier tous ces paysans et tous ces artisans malgré l'énormité des dettes qu'ils avaient eues. Ce qui veut dire qu'il y a eu des gens qui leur ont prêté de l'argent pour les aider à passer des mauvais pas. Donc en ce sens-là, c'est une économie, le crédit est un geste solidaire, si je puis dire.
D'accord.
Mais c'est un geste solidaire.
C'est important de le dire, parce que ce n'est pas spontanément ce que le grand public comprend.
Exactement. Donc c'était déjà une première contradiction. Puisque d'un point de vue purement économique, on est un peu étonné de se rendre compte qu'il y a tant de gens qui meurent trois fois endettés pour la valeur de leurs biens. Deuxième étonnement, si vous ouvrez les dictionnaires, prenons Furtière, un dictionnaire de la fin du XVIIe siècle. Il donne trois sens au mot crédit. Commençons par le second. Le second sens, il insiste sur le fait, il dit c'est l'autorité, c'est la puissance. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on n'attend pas quand on parle de crédit.
Absolument.
Le premier sens, c'est l'autorité morale que quelqu'un a acquis par ses bonnes conduites, etc. Donc c'est un sens moral, le premier sens du beau crédit. Mais le deuxième l'éclaire. Et en fait, on est dans une... Et le troisième sens, dernier sens, c'est le crédit, une activité qui se passe entre marchands. Et là aussi, ils mettent l'insistance sur la probité du marchand, sa bonne réputation. Et donc, c'est aussi un phénomène très contradictoire. Comment cette activité soi-disant économique se trouve décrite d'abord comme une activité morale et comme une activité qui relève de la puissance. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que l'économie d'Ancien Régime avait en quelque sorte deux économies imbriquées. Une économie aristocratique, qui est fondée sur l'économie du don, et qui est aussi une économie du pouvoir. Parce que dans cette économie, l'aristocrate qui va prêter à ses paysans, par exemple, qui va modérer ses dettes, entretient un lien social. On a beaucoup d'exemples de testaments où, au moment de la mort, l'aristocrate demande à sa femme d'aller voir chacun de ses paysans et de lui faire remise des intérêts de la dette. Mais par ailleurs, il y a une économie marchande, capitaliste, qui est en train de se mettre en place et qui, elle, est celle qu'on a connue. Mais ces deux économies se mêlent, même si l'économie aristocratique a cherché toujours à cantonner l'économie marchande dans des poches bien fermées. Et donc, c'est toutes ces contradictions autour du crédit qui m'ont donné envie de comprendre mieux comment ça fonctionnait. Et effectivement, quand on regarde, on se rend compte qu'il y avait une obligation de prêter. Toute personne qui commençait à avoir des difficultés financières, hier comme aujourd'hui, fait appel au crédit. Et là, vous faisiez appel d'abord, je dirais, à des cercles successifs de créanciers. D'abord à la famille. Et si la famille ne pouvait pas vous prêter d'argent, vous vous adressiez aux amis, aux voisins. Vous vous adressiez ensuite aux gens pour lesquels vous travaillez, puis aux élites des villages. Et vous terminiez par un emprunt sur les marchands étrangers, les Juifs, les Italiens, les Écossais, selon les régions. Et c'était en fait comme un continuum qui mettait le crédit comme un crédit solidaire et qui se terminait dans un crédit beaucoup plus marchand. C'est tout cet ensemble de complexités et de liens que j'ai voulu étudier dans le crédit. Et la dernière chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le crédit était condamné par l'Église.
Absolument. Alors ça, c'est la dimension religieuse, peut-être sur laquelle vous pouvez faire un développement. Est-ce que ça a été... structurant cet interdit religieux à un moment donné sur... Alors, à un moment donné, peut-être qu'aujourd'hui, sur la culture judéo-chrétienne, c'est peut-être en passe de s'éloigner, mais on en trouve d'autres formes dans la culture islamique. Enfin, mais celle-là, elle est beaucoup plus profonde.
Oui, et effectivement, autour de moi, tous les historiens avaient toujours considéré que cet interdit religieux n'avait pas d'efficacité, puisque tout le monde prêtait, puisqu'il y avait du crédit partout. Donc à quoi servait cette interdiction, puisqu'elle n'a jamais empêché personne de faire du crédit. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'elle a eu en fait beaucoup plus de conséquences qu'il n'y semble. Et j'en citerai deux qui me paraissent fondamentales. La première, c'est qu'elle a renchéri le crédit. Elle a fait que, puisque c'était une activité criminelle, d'abord, tout le monde pouvait s'y livrer comme il voulait et il n'était régulé en rien. Et donc, le crédit a été une activité très chère. Bon, en contraste aussi avec cette activité très complexe, puisqu'il y avait cette activité du don dont on a parlé tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est que, puisqu'elle était interdite jusqu'au 19e siècle, il n'y a qu'au 19e siècle que le crédit a été reconnu comme une activité légitime, il n'a pas été possible d'organiser un système bancaire. Et on voit bien aujourd'hui avec la crise que si on n'avait pas eu de prêteurs en dernier sort, la crise aurait été absolument dévastatrice. Quand la Northern Bank a commencé à tomber en faillite, immédiatement l'État anglais
est intervenu,
il l'a nationalisé et il a pris sa place. Et la crise a vraiment débuté quand Lehman Brothers n'a pas été renfloué. Or, dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas de prêteurs en dernier ressort, il n'y avait pas de système bancaire et on assistait périodiquement à des paniques financières exactement du type de celles qu'on vient d'avoir. Et une autre des similitudes avec ces paniques financières, c'était que ce n'étaient pas des banquiers qui ont les premiers prêté l'argent. C'est-à-dire que dans la crise des subprimes, ce sont des marchands de biens qui ont les premiers...
Des courtiers aussi. Des courtiers.
Voilà, qui ont les premiers poussé à vendre tous ces crédits. Et dans l'ancienne Europe, c'était la même chose. Tout le monde était marchand et banquier en même temps. Mais il n'y avait pas une institution bancaire.
Montes Pietatis.
Ouais. Alors, la première institution bancaire, c'était le Monde Piété. Mais le Monde Piété... C'est aussi très intéressant d'étudier comment il s'est développé en Europe. vous avez... D'abord, ça renvoie aussi à ces interdits. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que les protestants étaient pour le crédit et les catholiques étaient contre. Oui. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Chaque religion, si je puis dire, ou nuance...
Avait ses propres interdits.
Avait, oui, et puis il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Donc en fait, tout était... Ça traversait toutes les religions. Mais il y a eu un certain nombre de moines franciscains et récollets qui, les premiers, ont estimé qu'il valait mieux aider quelqu'un à ne pas tomber dans la pauvreté, donc à lui faire du crédit, plutôt que d'attendre qu'il soit tombé dans la pauvreté et lui faire un don, donc lui donner la charité. Et à ce moment-là, il y a eu les premières tensions sur ce qui était les fondements de cette société aristocratique et chrétienne, qui était charité et don. Et ils ont réussi à fonder ces monts de piété pour lutter contre l'usure, et ils en ont fondé en Italie, en Espagne, dès le XVe siècle. Mais la France a attendu la veille de la Révolution française avant d'en fonder un, le premier à Paris, à part quelques monts qui étaient sur les marges des monts frumentaires, des monts qui étaient sur les marges là où la France avait des traditions plus latines, ou bien un tout petit peu vers le nord, parce qu'il y a eu aussi toute une tradition de monts de piété vers la Flandre. Mais l'Angleterre n'en a jamais fondé avant le XIXe siècle, préférant toujours... laisser le marché fonctionner. Mais bon, ces monts de piété ont été effectivement les premières banques. Et elles ont été prises comme telles, parce que si vous étudiez comment ces banques ont fonctionné, vous vous rendez compte qu'elles ont servi de banque pour les pauvres, pour les petits commerçants. Mais dans ce refus d'accepter la fonction bancaire de ces monts de piété, puisque jamais l'autorité ecclésiastique, ni même laïque, n'aurait accepté la création d'une banque. C'était légitimer le crédit, ce qui était absolument impossible. Et donc, ce sont des banques qui sont restées sans arrêt à cheval entre banque et charité. Et par exemple, les gens qui ont apporté des capitaux pour faire fonctionner ces monts de piété, la plupart du temps, n'avaient pas le droit d'avoir des capitaux rémunérés. Donc, une banque qui fonctionne avec des capitaux non rémunérés, elle ne fonctionne pas longtemps. En plus, très vite, les frais de fonctionnement ont mangé tout
le capital.
Et donc, il est même arrivé des cas où le monde piété s'est mis à coûter plus cher que les banques privées ou les usuriers privés, parce qu'eux, d'abord, pouvaient se liguer pour faire tomber le monde, et ensuite, ils pouvaient gérer comme ils voulaient, alors que le monde piété, dès qu'il avait des bénéfices, il devait les reverser à d'autres œuvres de charité. Donc, ce flou et ce refus d'accepter le crédit comme le pétrole de l'industrie, hein, le pétrole du commerce, a finalement grandement, je crois, gêné et le développement de l'activité et a renchéri énormément pour les plus pauvres comme pour les commerçants le coût du crédit.
Alors c'est ce que vous dites, page 211 de votre ouvrage, « Perte de pertinence sociale du discours religieux ». Ainsi, entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'État a pris progressivement en charge la légitimité des discours sur l'usure, ainsi que le contrôle des pratiques de crédit. C'est ce que vous venez de développer, et bien entendu, vous avez de nombreuses pages sur ce sujet. Alors, vous faisiez tout à l'heure rapidement le parallèle entre la crise financière, les subprimes, etc. d'aujourd'hui, et l'Ancien Régime. Quelle est votre réflexion, alors à la fois, enfin, au fond, d'historienne, sur... cette crise qui, quand même, sur bien des domaines, est assez gigantesque et assez, même si certains se défendent d'une reproduction de la crise de 1929, a quand même une dimension assez particulière. Et dans ce parallèle avec l'Ancien Régime, quelles sont vos réflexions ?
Dans le parallèle avec l'Ancien Régime, ce qui me frappe le plus, c'est que comme dans l'Ancien Régime, tout d'un coup, tous les acteurs, dans l'Ancien Régime, c'était les marchands, d'abord se retrouvent en présence d'au moins un tiers de créances pourries dans leur portefeuille. Mais ils ne savent pas combien ils en ont, exactement comme les banques aujourd'hui. Elles ne savent pas l'étendue des créances pourries qu'elles ont dans leur portefeuille. Et du coup, puisqu'elles ont ce manque d'informations et cette peur, aucune ne veut se mettre en situation de tomber en faillite. Ce qui veut dire que si une banque vous demande de lui prêter de l'argent, vous refusez. Et c'était la même chose dans l'Ancien Régime. Dès qu'une panique financière arrivait, plus personne ne voulait se prêter, à quelque taux que ce soit. Les gens enterraient l'argent, le peu qu'ils avaient, ils le gardaient. Oui. Et donc, en ce sens-là, ce sont exactement des phénomènes tout à fait similaires.
Espérons qu'on ne va pas reproduire cette circonstance. Quoique, on a parlé déjà de crédit crunch, mais pour l'instant, ça touchait essentiellement quand même les banques et la liquidité des banques entre elles. Alors, avant d'en venir au point central de votre parution, le microcrédit, et puis en particulier du rôle des femmes, qu'on a un tout petit peu effleuré tout à l'heure, nous allons marquer une pause pour prendre une respiration. À tout à l'heure.
Installez-vous à la table de Canal Académie. Découvrez nos émissions en compagnie d'Hervé Tisse avec sa cuisine moléculaire. Pierre Feillet vous livre 5 scénarios possibles pour votre assiette en 2030, Jean-Marie Bourg pèse le pour et le contre des oméga-3, et Robert Anton vous aide à y voir plus clair sur des compléments alimentaires. Sans oublier la chronique gastronomique de Jean Vito. Des émissions en libre écoute et téléchargement sur Canal Académie.
Chère Laurence Fontaine, nous nous retrouvons pour reprendre au fil des pages votre remarquable ouvrage « L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle » paru chez Gallimard, et sur un point, le point central, le microcrédit, et en particulier, j'aimerais que vous nous rappeliez quel est le rôle des femmes, enfin en tout cas celui que l'on peut imaginer, qui semble devenir croissant dans ce domaine, malgré les freins que vous avez évoqués tout à l'heure sur le cas particulier de l'Inde.
Dans l'Ancien Régime, comme dans de nombreux pays, en particulier de pays non européens, le rôle des femmes a toujours été de nourrir sa famille. Et dans l'Europe ancienne, c'est un rôle qui a été en quelque sorte grandissant. C'est-à-dire, c'est un rôle qui s'est affirmé au fil des siècles, qui n'était pas... C'est pas... Après, il y a eu un changement, mais entre Moyen-Âge et 19e siècle, le rôle des femmes a été de plus en plus confiné à la famille. Et donc, ces femmes doivent nourrir leur famille. Mais en même temps, elles ont des revenus très aléatoires, elles contrôlent très peu le budget, et donc, elles sont sans arrêt à jongler avec, des revenus aléatoires, des besoins réguliers. Et il y a un autre élément qu'il faut ajouter dans le tableau, qui est que dans l'Europe ancienne, les femmes avaient des dots. Et ces dots étaient censées les faire vivre si elles se retrouvaient veuves, ce qui était quand même relativement fréquent, parce que la vie était beaucoup plus aléatoire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc elles avaient pris l'habitude, ou les maris avaient pris l'habitude, de faire fructifier leur argent. Si vous regardez qui sont les grands créanciers de l'Europe ancienne, vous avez les femmes, parce qu'elles plaçaient leurs dots. Donc elles avaient cette première entrée dans le monde de la finance. Et puis ensuite, comme elles sont au plus près des familles et des quartiers, dans les villes, vous aviez une finance informelle absolument foisonnante, avec quantité d'intermédiaires, de prête-noms. Vous aviez des grands aristocrates qui prêtaient, mais en se cachant derrière des usuriers, derrière des bijoutiers. Il y a comme ça une finance foisonnante dans la ville d'Ancien Régime. Et les femmes sont un maillon de cette finance foisonnante, parce qu'elles sont tout près du renseignement. Elles connaissent les familles, les quartiers. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui les a mis au cœur du microcrédit, le besoin pour elles, le fait que ce sont des femmes qui sont au cœur du renseignement, donc elles sont utilisées par les autres. Et le troisième aspect revient toujours à la même chose, c'est que puisque cette activité était interdite, finalement, ce sont les gens qui étaient les moins, qui avaient le moins de statut, le moins de droits politiques et économiques, qui ont été par force aussi dans cette activité. Et c'est en ce sens-là que l'activité de microcrédit, puisque la ville vivait entièrement là-dessus, que les femmes en sont devenues de très grands acteurs. Et un dernier élément, les femmes sont aussi au cœur du vêtement, des bijoux, de la parure. Et dans les sociétés d'Ancien Régime, l'argent ne circulait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et finalement, une chemise, c'était de l'argent. Dès que les femmes avaient besoin de quoi que ce soit, elles allaient soit chez un prêteur privé ou elles-mêmes, et elles échangeaient, elles mettaient en gage leurs maigres possessions. Et donc elles sont en quelque sorte au cœur de ce qui fait la valeur, du renseignement, des besoins, elles n'ont pas les droits. Et c'est tout cet ensemble qui a mis les femmes au cœur de toute cette activité de microcrédit dans la ville.
Donc c'est absolument pas extraordinaire que l'on trouve ce même rôle des femmes dans les pays en voie de développement, en particulier en Afrique, qui prennent à leur compte le microcrédit. Parce qu'à l'origine, enfin, ce sont dans ce type de pays où le microcrédit est apparu, comme vous le disiez fort justement, en Inde, avec Mohamed Younous. Et donc, on comprend cette trajectoire historique que vous développez de façon très claire dans votre ouvrage. Alors, vous ajoutez que l'économie est fondée sur la confiance et le crédit est alors encastré dans des enjeux sociaux qui la dépassent. Et vous ajoutez deux cultures économiques, la féodale et la capitaliste, se côtoient, chacune portée par des valeurs spécifiques, s'affrontent, mais également s'influencent au point de se transformer. Restituer le champ des expériences possibles ou communes rend du même geste les multiples tensions qui traversent les sociétés, au niveau collectif entre les sociétés d'ordre et de statut et le développement parallèle de rationalité économique au niveau individuel entre les exigences contradictoires des diverses appartenances des individus, leurs aspirations et la réalité éprouvée de leur expérience ordinaire. Tout est dit. C'est vraiment une très grande synthèse. Néanmoins, au-delà de ces contradictions, l'historienne trouve dans la réalité d'aujourd'hui des sources d'espoir, même si c'est des espoirs inquiets ou non.
Oui, bien sûr.
Quels sont-ils? On aime entendre des choses positives.
Mais les sources d'espoir, c'est que progressivement, il y a toute une réflexion qui se fait autour de ces phénomènes économiques. Je dirais que grâce à la crise, les Français ont appris sur l'économie en un an beaucoup plus qu'ils ne l'avaient appris en 50. Il y a un intérêt et je crois profondément qu'il y a aussi une meilleure compréhension des mécanismes du marché. Les gens cessent moins de crier que le marché est un diable et se rendent mieux compte que c'est une institution et que, comme toutes les institutions, on peut y réfléchir dessus et la réguler et la transformer. Donc cette volonté de comprendre me semble tout à fait prometteuse. C'est comme si des tabous tombaient. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de penser à neuf et de laisser les tabous derrière nous.
Donc vous dites à quelque chose malheur est bon, c'est-à-dire que cette crise montre aussi à tout un chacun et à chaque, comment dirais-je, centre géopolitique que finalement ils dépendent les uns des autres et que on ne peut pas, si on meurt, on meurt avec les autres. En tout cas, en économie, c'est la règle et la crise financière mondiale de la planète finance est en train de le montrer. Alors, l'historienne, on a vu que les économistes, notamment, étaient un petit peu en désarroi. Ils ne savaient plus très bien où chercher la vérité. On a vu d'ailleurs qu'ils n'avaient pas beaucoup prévu de choses, sans être méchant. Hein. Je crois que la réalité a montré que les prévisions avaient un petit peu péché. Et donc, on assiste à un phénomène qui fait que de nombreuses sciences viennent au secours de la science économique, si tant est que ce soit une science. On a vu les psychanalystes, on a vu les philosophes apporter leur contribution à la réflexion, notamment Comte Sponville a écrit des choses extrêmement brillantes sur ce sujet. L'historienne, elle, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ses collègues économistes comme complément de réflexion? Enfin, bien entendu, on a déjà entendu un certain nombre de choses, mais si vous aviez deux ou trois points particuliers à souligner à vos amis économistes, ce serait quoi? Ou un, peut-être, je ne sais pas.
Eh bien, je leur soulignerai d'abord le fait que l'économie est une science humaine, enracinée dans un système politique et économique et culturel et social, et qu'il faut en prendre conscience dans toute réflexion économique, je leur dirai cela. Et puis, je leur dirais peut-être la seule leçon que je tire des crises d'Ancien Régime, c'était des leçons qu'il faut modérer les crédits, laisser la crise s'épuiser toute seule, qu'il faut être le moins interventionniste possible, au moins en ce qui concerne de réclamer ses crédits. Mettre les dettes à court terme en dettes à long terme, voilà, d'avoir beaucoup de mansuétude vis-à-vis de ces débiteurs qui sont juste des victimes de la crise et que progressivement les affaires repartiront. Et que des actions trop brutales risqueraient au contraire d'accentuer encore la crise. Et je dirais aussi que la vraie grande découverte pour moi, entre hier et aujourd'hui, c'est la constitution d'un système bancaire avec un prêteur en dernier ressort, qui permet d'agir, alors que dans l'Ancien Régime...
C'est les leçons de l'historienne en direction des économistes. Donc vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez plus particulièrement sur quel sujet? Alors je suppose bien sûr l'histoire, mais vous avez des préoccupations particulières, peut-être d'ailleurs qui pourraient faire l'objet d'une prochaine parution, je n'en sais rien. Actuellement, quels sont vos centres d'intérêt au-delà de ce merveilleux ouvrage?
J'ai toujours travaillé par, si je puis dire, par excroissance. Ah oui. C'est-à-dire que mon premier sujet, c'était un sujet sur les colporteurs des montagnes. Et puis, c'est devenu un sujet...
Très, très pointu, j'ai vu, hein, sur...
Mais après, c'est devenu un sujet beaucoup plus large, puisque c'était un sujet sur tous ces petits marchands ambulants à travers toute l'Europe. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous ces gens vivaient dans des réseaux de crédit. Mais finalement, toutes ces migrations, c'est qu'une espèce de préhistoire des réseaux ethniques de commerce, tels qu'on peut les voir aujourd'hui en Chine ou en Amérique latine, tous ces réseaux de migrants qui sont aussi des réseaux d'affaires. Donc j'ai travaillé là-dessus, et maintenant ce qui m'intéresse, bien sûr, tous les sujets, puisque ça foisonne dans tous les sens. Donc
tout se rejoint quelque part.
Tout se rejoint quelque part, donc je suis toutes les lignes un peu au hasard des sollicitations, mais parce que tout m'intéresse. Mais je m'intéresserai maintenant peut-être plus à comment les gens pensent le futur, quelles sont leurs stratégies de prévision.
Comment... Ah ben ça, je pense que les économistes seraient très heureux de vous entendre, en tout cas ceux qui pensent que les économistes font des prévisions.
Voilà, donc pour répondre à votre question, j'aimerais...
Travailler là-dessus.
Travailler voilà, sur le temps, comment les gens perçoivent le temps.
Et vous avez une équipe avec vous, enfin vous dirigez, je suppose, il y a des personnes aussi avec vous.
Des chercheurs qui trouvent. j'ai longtemps enseigné dans une université européenne et là j'ai eu beaucoup de chercheurs. Et donc j'ai plusieurs chercheurs, je pense à la thèse d'un remarquable étudiant finlandais qui a fait une thèse un peu sur les stratégies de survie en Finlande au moment de l'industrialisation. J'ai comme ça plusieurs étudiants et je travaille aussi avec une amie qui est sociologue parce que je me suis exprès rapproché d'un laboratoire de sociologie parce que ça permet ce dialogue et cette comparaison
entre les sciences
à travers le passé et cette amie qui s'appelle Florence Weber, elle aussi se pose le même genre de questions sur le contemporain et nous avons toutes les deux un séminaire avec un troisième, Laurent Feller qui est un médiéviste autour de l'économie et de la société dans lequel nous avons la moitié d'historiens, la moitié de sociologues et on poursuit ce dialogue sur ces questions d'économie informelle, sur toutes les questions autour de ce livre, d'économie politique, de manière d'être à l'économie, comment chacun est à l'économie, achète, tous ces gestes économiques sont aussi des gestes culturels et on essaye de travailler là-dessus.
Bien écoutez, je crois que nos auditeurs ont compris que votre ouvrage est à découvrir très très rapidement. C'est un ouvrage qui est paru chez Gallimard, L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle. C'est un ouvrage assez volumineux puisqu'il fait presque 450 pages et qu'il coûte seulement 20 euros. Donc nous aurons grand plaisir, j'espère, prochainement de vous accueillir à nouveau sur notre antenne pour vos nouvelles parutions, en particulier sur ces sujets de prévision et du temps qui nous intéressent à plus d'un titre. En tout cas, Madame Laurence Fontaine, merci à vous pour
merci
ce merveilleux
vous.
Entretien et encore bravo pour cette parution remarquée et remarquable. Merci à vous.
Merci à vous.